Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bonjour à toutes et à tous, c'est François Lay et bienvenue dans ce 59e épisode. J'ai discuté avec Lucie Éléonore Riveron, cofondatrice et CEO de Fauve Paris, une maison de vente aux enchères ancrée depuis 2014 dans le Haut-Marais à Paris. Avant de vous parler de mon invité, sachez que l'épisode a été filmé intégralement dans leurs magnifiques locaux et qu'il est disponible sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Je vous conseille fortement d'aller le voir car certains éléments de l'épisode sont disponibles uniquement en vidéo. Je n'en dis pas plus. Fauve Paris, ce n'est pas qu'une maison de vente aux enchères, c'est aussi et surtout un lieu de vie de 750 m² comprenant une salle d'exposition et un coffee shop restaurant. Je trouvais que le sujet de la vente aux enchères était très peu, voire pas du tout abordé dans les podcasts dédiés à l'entrepreneuriat, et aussi que ce monde particulier attisait ma curiosité. Depuis sa création, Fauve Paris veut justement casser les codes de la vente aux enchères. Avec plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 5,5 millions d'euros de produits de vente en 2021, la maison veut innover et s'ouvre notamment à la blockchain. Dans cette conversation passionnante avec Lucie Éléonore, vous pourrez écouter et découvrir son parcours avant d'entreprendre et son déclic, justement, pour entreprendre, le concept et l'expérience de Fauve Paris, plus qu'une maison de vente aux enchères, c'est un lieu de vie. Comment leur arrivée sur ce marché a-t-elle été perçue par leurs confrères? Comment fonctionne une maison de vente aux enchères? Quels sont tous les services qu'ils proposent? Quel a été l'impact de la pandémie sur ce métier et sur Fauve Paris? Ou encore, un lancement est-il prévu prochainement dans les crypto-monnaies et les NFT? Je n'ai pas de doute sur le fait que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de cette 6e saison, où je vous raconterai toutes les prochaines étapes du podcast. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify si le podcast vous plaît, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur avec un S à la fin et le tiré du bas. Et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Lucie Léonore, comment tu vas ?
Eh bien, salut François, ça va très bien.
Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast, même si c'est toi qui m'accueille chez toi, dans les locaux de Fauve Paris. On va en parler justement dans cet épisode. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans les podcasts, quand je démarre un épisode, c'est de savoir dans quel environnement tu as grandi.
Eh bien, j'ai grandi pas à Paris, mais avec des parents qui m'emmenaient tous les week-ends dans les brocantes et les foires d'antiquités. Et je me souviens, mon papa, quand j'étais toute petite, me faisait déjà reconnaître les époques et les styles des objets. Et j'ai toujours grandi au milieu des œuvres d'art et des objets surtout.
Donc tu as baigné là-dedans un peu ?
J'ai baigné là-dedans,
oui. Ils faisaient quoi, tes parents ?
Ma maman était institutrice en maternelle. Voilà, moi j'ai horreur des enfants, alors j'ai un petit peu fait une réaction contre ce versant-là. Et mon papa était décorateur publicitaire, mais il avait fait les beaux-arts. Notamment en lettrage, j'ai dessiné des lettres et moi aujourd'hui je suis entre autres passionnée de typographie, donc c'est assez amusant, j'ai baigné dans les lettrages et les objets.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avant de créer Fauve Paris? Ça a été quoi ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat?
Parcours un peu long et sinueux. Quand j'étais au lycée, j'ai toujours voulu dessiner, j'ai toujours été très créative quand j'étais petite. Et quand j'étais au lycée, j'étais aussi passionnée de médecine, donc je voulais faire de l'illustration médicale. Et il y a une seule formation en France, c'est aux arts décoratifs de Strasbourg, que j'ai tenté quand j'étais au lycée, que j'ai lamentablement échoué parce que je n'étais pas du tout préparée. Et je me suis retrouvée au mois d'avril sans plan B, sans rien du tout. Et comme je me débrouillais bien à l'école, j'ai entendu parler de Sciences Po. Donc j'ai tenté Sciences Po. Et voilà, j'ai été prise. Je suis entrée à Sciences Po à Paris à 17 ans. Un peu par hasard, en fait, finalement, un peu en plan B. Et j'y ai passé 5 ans. Donc le premier cycle, 2 ans à Paris. Ensuite, j'ai fait un an d'études incroyables à Rome où j'ai étudié la philosophie du langage et l'esthétique. Puis je suis revenue faire un master à Sciences Po, que j'ai fait en un master de gestion des entreprises culturelles. Ça devait s'appeler comme ça à l'époque. Donc très gestion, marketing, comptabilité, etc. Mais avec quand même des cours de muséographie, de marché de l'art. En parallèle, je travaillais en galerie pendant 2 ans, ce qui m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Et une fois que j'ai été diplômée, ce rêve d'être artiste, en fait, ne m'avait toujours pas quittée. Donc, après mon diplôme de Sciences Po, j'ai fait une année de préparation au concours aux écoles d'art, ce que je n'avais pas fait 5 ans auparavant. Donc, j'ai passé un an à faire ça, à créer, en fait. C'était une année assez intense. Donc, j'avais 5 ans de plus que tous mes camarades, mais bon, peu importe. Et ensuite, je suis entrée aux Arts décoratifs de Paris et l'année d'après aux Beaux-Arts de Paris. Parce que j'avais été refusée la première fois, donc j'ai remonté. Problème avec l'échec. Donc je suis restée pas très longtemps aux Beaux-Arts finalement. Je suis restée aux Arts décoratifs de Paris pendant 3 ans. J'ai fait une formation de design graphique. En parallèle, j'étais assistante d'artiste. J'ai encore travaillé dans d'autres galeries. Enfin, ce côté marché de l'art ne m'avait pas quittée. Et après les Arts décoratifs, j'ai intégré une maison de vente aux enchères, une grosse maison de vente à Drouot. Comme directrice éditoriale. Donc, je m'occupais de à la fois toute la communication, toute la stratégie éditoriale. Voilà, je suis restée là pendant 4 ans.
Tu connaissais déjà, du coup, un peu le domaine des ventes aux enchères ou c'est à ce moment-là que tu découvres cet univers qui est quand même particulier ?
Je l'ai vraiment découvert là. Donc, je connaissais très bien le marché de l'art parce que je connaissais très bien le monde des galeries et des artistes. Mais les ventes aux enchères, j'ai vraiment découvert par ce poste-là. Voilà. C'est là que j'ai rencontré mon associé, mon principal associé, Cédric Mélado, qui lui est commissaire-priseur, travaillait dans une autre maison de vente aux enchères, et on se retrouvait, c'est un tout petit milieu, donc il y a, en l'occurrence c'était à Drouot, qui est un peu le haut lieu des ventes aux enchères à Paris. Et on s'est, enfin voilà, tout le monde se croise, tout le monde se connaît, et puis nous on s'est plus que croisés, et puis... on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de notre métier et puis un jour on a eu envie de se lancer tous les deux.
Et donc là on est en quelle année quand vous décidez de créer Fauve Paris ?
On est en 2013 quand on décide de créer Fauve Paris parce qu'on s'ennuie un petit peu dans notre job. Moi je quitte mon boulot avant. Donc je suis quelques mois à faire du freelance, des trucs en attendant que le projet mûrisse. Donc je dois quitter mon boulot en février-mars 2013. Cédric quitte le sien en septembre et donc on se met à temps plein sur le projet en octobre 2013 et on a ouvert fin avril 2014 et fait notre première vente en mai 2014.
Donc c'est quand même allé assez vite.
Ouais, ça allait très vite.
Très vite même.
Et en quelques mois, en gros, il y a 9 mois, j'avais calculé que c'est vraiment une gestation. En 9 mois, on a trouvé des locaux, fait des travaux dans les locaux, créé notre propre logiciel de vente parce que ce qui existait sur le marché, ça ne nous plaisait pas. Donc, on a créé un cahier des charges, donc on a créé un CRM, en fait, complètement dédié. On l'a fait développer et on a récolté toutes les œuvres pour faire... Nos premières ventes, en fait, nos 5 premières ventes. Voilà, on a fait ça en 9 mois et
super.
C'est pas ennuyé.
Et donc, on est effectivement dans les magnifiques locaux de Fauve Paris. Fauve Paris, c'est pas qu'une maison de vente aux enchères, c'est aussi un café. Est-ce que ouais. Tu peux m'expliquer un peu tout le concept de ce lieu qui est assez impressionnant?
Alors, notre idée avec Cédric, quand on a vraiment imaginé Fauve Paris, c'est qu'on trouvait que les ventes aux enchères étaient vraiment réservées aux initiés, qu'il fallait des codes pour y aller, que ce soit à Drouot où il y a vraiment beaucoup de professionnels, c'est très intimidant d'aller là-bas, ou alors dans des grosses maisons de vente où c'est également intimidant, mais parce que c'est très impressionnant, les locaux, par exemple Charcurial, c'est sur les Champs-Élysées, enfin, c'est vraiment très impressionnant. Nous, on avait envie de montrer que les ventes aux enchères, c'est bouillonnant, c'est foisonnant, qu'il se passe plein de choses, que c'est ouvert à toutes et tous. Donc on avait vraiment voulu un petit peu désacraliser les ventes aux enchères. Je ne parle pas de démocratisation, parce qu'on ne vend pas non plus des choses à 10-20 euros. D'ailleurs, on est en train de monter en gamme, on en parlera après, mais ce n'est pas démocratiser, c'est vraiment désacraliser, casser les codes de ce milieu un petit peu figé, enfin, qui nous semblait figé, en tout cas du haut de nos 30 ans à l'époque. Donc on a vraiment voulu changer de quartier, donc pas être dans le 8e ou le 9e, d'être dans un quartier voilà, à côté, peut-être plus vivant. On a pignon sur rue, on n'a pas des murs blancs ni des murs avec du velours rouge. Enfin, on voulait un endroit assez chaleureux. Et on voulait surtout que ce soit un lieu de vie. C'est-à-dire que les gens puissent accéder par un autre biais que la vente aux enchères. Donc l'aspect convivialité nous avait paru évident. À l'époque, c'était un bar à vin. Depuis, on a vieilli, on a eu des enfants, donc on l'a transformé en coffee shop.
Le lieu évolue comme vous, finalement.
Le lieu évolue comme vous, hein, c'est le propre des lieux qu'on a avec le cœur et qui nous suivent. Donc c'était vraiment pour désacraliser, pour que ce soit un lieu de vie, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait de l'animation, pour qu'on ait plaisir à venir, à revenir. Et on était aussi parti du principe que les gens qui aiment les belles choses aiment les bonnes choses, et inversement.
C'est vrai. Voilà. Comment votre arrivée sur ce marché a été perçue par, on va dire, les concurrents?
Alors, pas...
Donc, c'est une vision nouvelle, casser justement un peu les codes d'un milieu très traditionnel. Et je dis ça sans trop connaître ce milieu. Donc, je pense que c'est un peu représentatif des acteurs aujourd'hui de ventes aux enchères.
Effectivement, ça a été moyennement bien accueilli. En plus, à l'époque, on était vraiment très jeunes et très inconscients et très, très fougueux. Et on avait ce slogan qui était « Libérer les enchères ». C'était un peu avec les fauves, etc. On voulait vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière, tout révolutionner. On a eu énormément de presse à notre lancement. Et ça n'a pas forcément été très bien compris, en tout cas. En plus, donc c'est moi qui dirige Fauve Paris. Je suis une femme jeune et je ne suis pas commissaire-priseur.
Bon. Et ce milieu, il y a beaucoup d'hommes, du coup ?
C'est très masculin, ouais. Et il y a vraiment cette posture du commissaire-priseur qui, parce que c'est un métier qui a longtemps été un monopole. Le monopole a été démonté en 2000. Donc aujourd'hui, on est une société commerciale, mais il y a encore beaucoup de confrères qui fonctionnent un petit peu avec des charges judiciaires, avec avec le fait qu'ils sont là depuis des dizaines d'années. Donc finalement, ça tourne. Nous, on s'est créé de toutes pièces. On venait...
Il y avait tout à faire, finalement.
Il y avait tout à faire. On a tout créé. Et aujourd'hui, on fonctionne vraiment comme une entreprise. Et en fait, les entrepreneurs sont assez rares dans ce milieu. Voilà.
Oui, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y a des sociétés similaires comme la vôtre où effectivement, vous étiez un peu les précurseurs de révolutionner ce milieu, finalement?
On est un peu unique dans notre genre, ouais. On est un peu les enfants terribles des ventes aux enchères, à la fois dans notre manière de communiquer, dans notre positionnement, dans le fait qu'on a nos propres locaux. Il faut quand même savoir qu'à Paris, 95% des ventes aux enchères, je pense, se font à l'hôtel Drouot. On est très très peu à avoir de locaux. Et ben, y a Christie's, Sauce Bizarre Curial, donc vraiment des très très grosses maisons. Nous, on a pour l'instant une taille plus... familiale, j'ai envie de dire. Et donc, à notre niveau de produits, de vente, d'organisation de vente, etc., on est un peu unique dans notre genre. Ouais.
Et pourquoi ce nom Fauve Paris, même si je commence à comprendre l'état d'esprit de Fauve?
Eh bien, finalement, ça a été le plus dur dans le projet. Pour te faire une confidence, de trouver notre nom, je me souviens, on devait absolument rendre notre business plan pour avoir ses locaux. On n'avait toujours pas le nom. Donc, on a fait un portrait chinois, voilà. Et tout s'est un peu recoupé entre ma chevelure, celle de mon associé, et surtout le mouvement des fauves, le fauvisme en 1905. C'était des artistes qui faisaient des toiles très très colorées et ça a été très mal perçu à l'époque. Et un critique avait dit au salon de 1905, où ils étaient exposés, et au milieu il y avait une sculpture très classique, il avait dit c'est Donatello parmi les fauves. Donc c'était clairement une critique, et au final ça s'est transformé en synonyme d'audace et de panache. Et ça nous plaisait bien.
Ça collait parfaitement à cette envie de casser les codes, justement.
Ouais, ça collait parfaitement. Et aujourd'hui, on s'y retrouve, les gens nous appellent les fauves, enfin il y a vraiment une incarnation... notre nom.
Au-delà de ce que vous aviez prévu au départ.
C'est ça.
C'est souvent comme ça que ça évolue d'ailleurs.
Et ce qui est important surtout, c'est qu'on voulait créer une marque. Souvent nos confrères s'appellent du nom du commissaire-priseur ou des noms des commissaires-priseurs. Nous on voyait ça déjà comme vraiment comme une entreprise, donc avec une marque, avec un état d'esprit, avec une charte graphique, enfin avec quelque chose de très affirmé. Voilà, donc c'était important pour nous qu'il y ait quelque chose qui résonne comme ça.
Alors moi, je suis totalement novice sur les ventes aux enchères, comme une partie de mon audience, je pense. Parce que les sujets de l'entrepreneuriat tournent finalement
très peu.
Il y a très peu de sujets justement sur la vente aux enchères. Et j'aimerais bien voir avec toi comment fonctionne une maison de vente aux enchères et c'est quoi un peu tous les services que vous proposez au sein de Fauve Paris.
Alors, on va commencer par la vente aux enchères, c'est le plus facile. Donc nous, on n'achète rien. On est vraiment des intermédiaires, un peu comme un agent immobilier. En fait, on trouve des œuvres, ou en tout cas des vendeurs et des vendeuses nous confient des œuvres qu'on passe en vente aux enchères et qu'on vend à des acheteurs ou des acheteuses. Et en termes de business model, on va prendre une commission sur la vente et sur l'achat. Ça, c'est le business model global. Et alors, notre panel de services, côté vendeur et vendeuse, on fait des estimations. En fait, c'est comme ça qu'on trouve des œuvres à mettre en vente. On fait des estimations, donc ça nous arrive. Les gens nous envoient des mails par notre site internet. Les gens viennent, on a vu quelqu'un là tout à l'heure qui venait faire estimer un diamant. Donc les gens nous apportent ou nous montrent des photos des œuvres qu'ils ont à vendre et on les estime gracieusement. On fait également des inventaires, que ce soit pour des successions, pour assurances, etc. Et ensuite, quand les gens sont d'accord sur notre estimation et qu'ils ont envie de vendre, on leur propose de les passer en vente. Voilà. Et ensuite, côté acheteur, ce qui est intéressant dans le fait d'acheter en maison de vente aux enchères, c'est que y a plein de choses intéressantes, mais notamment c'est qu'on garantit l'authenticité de ce qu'on vend. Donc passer par une maison de vente aux enchères, on est responsable pendant 5 ans de ce qu'on vend. Donc on ne peut pas s'amuser à vendre des faux. Voilà. Et puis vous avez la garantie d'avoir le juste prix. C'est-à-dire que nous, notre intérêt, c'est que ça fasse le plus cher possible. Donc quand vous êtes vendeur, par rapport à le vendre à un antiquaire, par exemple, qui va acheter certes tout de suite, mais qui derrière va vouloir le vendre beaucoup plus cher de son côté pour lui-même faire sa marge, ce qui est normal. En vente aux enchères, c'est le marché pur et parfait presque. C'est la rencontre à un instant T de l'offre et de la demande. Donc que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur, vous êtes sûr de l'acheter au juste prix.
Voilà. Et le business model, finalement, c'est comme une agence immobilière. Vous prenez une
commission.
Une commission.
Sur la vente et sur l'achat.
Ok, super intéressant. Mon autre question, c'est qui peut vendre aux enchères et qui peut acheter ? Est-ce que c'est n'importe qui ? À partir du moment
où... absolument. On peut vendre, bien sûr, tout. Je crois qu'il faut être majeur quand même pour acheter. Mais à part ça, tout le monde peut vendre, tout le monde peut acheter. En revanche, le fait de vendre aux enchères, ça c'est une profession réglementée. Donc n'importe qui ne peut pas vendre aux enchères en tant qu'acteur. Donc en tant que maison de vente, on a une autorité de tutelle, un petit peu comme l'AMF, qui s'appelle le Conseil des ventes volontaires, qui nous donne un agrément. Il y a plein de conditions d'assurance, de compte de tiers, de commissaire-priseur habilité avec la formation ad hoc, etc. Donc il y a quand même n'importe qui ne peut pas s'installer comme maison de vente aux enchères. C'est une profession réglementée.
Ok. Et question un peu statistique. Quel a été l'objet le plus cher qui a été vendu chez Fauve Paris ?
Chez Fauve Paris, eh bien, c'est un cabinet d'Augsbourg du XVIIe siècle qu'on a vendu 360 000 euros au mois de juin dernier.
On pourra potentiellement intégrer la photo sur la vidéo.
Ouais.
Ok,
ça,
super.
Ça, c'est notre plus gros... Je vais quand même vérifier le prix, mais Ouais, 381 000 euros, pardon.
Ah oui, ok, très ouais. bien.
Tu vois, t'as la photo ici.
Et maintenant, on va parler un peu de l'expérience fauve, même si on en a un peu parlé au début. Donc là, on est dans les locaux de Fauve Paris. Donc il y a 750 mètres carrés dans le Marais, avec, comme on a dit, un café aussi. Donc ça veut dire que les gens peuvent arriver aussi bien juste pour prendre un verre ou estimer un bien. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de toute cette expérience ?
Alors notre principe, c'est qu'on organise une vente aux enchères chaque semaine, ce qui est assez unique à Paris, d'avoir ce rythme-là.
C'est quoi le fonctionnement habituel ?
Le fonctionnement de nos confrères, comme 95% louent des salles à l'hôtel Drouot, qui est vraiment un endroit où il y a à peu près 80-90 maisons de vente aux enchères qui louent des salles, hein, comme un hôtel, eh bien ils sont dépendants des autres en fait, pour la location de salles, pour la disponibilité. Et en plus, il y a une concentration des ventes en novembre et décembre et en juin, je crois, à peu près. Donc en fait, mes confrères, ils font beaucoup moins de ventes par an, peut-être des ventes plus grosses avec plus de lots, plus d'œuvres, mais de manière moins régulière. Et ils les font aussi souvent par spécialité, c'est-à-dire ils font une vente de tableau ancien, une vente de tableau moderne, une vente de design, une vente... Voilà. Nous, notre principe, c'est qu'on organise chaque samedi, vraiment chaque samedi. On fait une petite pause en été entre Noël et Nouvel An, mais bon, on a quasiment 50 ventes par an. Une vente chaque samedi matin à 10h30, où on mixe les spécialités. Donc par exemple, cette semaine, on a des bijoux, du vin, des tableaux anciens et de l'art d'Asie. La semaine d'après, on va avoir de l'art moderne, l'art contemporain, du design. Donc à chaque fois, on a des choses très variées, ce qui nous permet d'avoir des salles assez sympathiques aussi. Donc une vente aux enchères chaque samedi matin. Et dès le samedi après-midi, on organise l'exposition de l'avant de la semaine d'après, ce qui nous permet d'avoir des expositions très longues, de presque une semaine. Donc ensuite, on expose du samedi après-midi, puis du mardi au vendredi soir. Et donc, en fait, on peut venir toutes les semaines. C'est un musée qui change toutes les semaines. Donc, on a plein de clients et clientes
qui est génial, en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a pas que des tableaux, par exemple.
On vend vraiment de tout.
D'objets différents, variés. Ouais. Et du coup, ça vous permet aussi de découvrir des choses, j'imagine.
Bah nous, c'est non-stop. Semaine, c'est... on découvre des choses tous les jours.
Chaque semaine, c'est Disneyland.
C'est ça. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on a plein d'habitués qui viennent déjeuner très régulièrement, qui en profitent pour faire leur petit tour. On a vraiment plein de gens qui viennent toutes les semaines avec leurs enfants, faire un tour, déjeuner au café, prendre un café. Enfin, il y a un côté aussi très vite quartier. C'est amusant parce qu'on travaille énormément avec l'international, peut-être 70% de notre clientèle internationale, mais on a ce côté très implanté voilà, dans le Haut-Marais, dans le quartier, avec nos habitués, nos clients qui nous connaissent. C'est vraiment chouette.
Ça aussi, ça fait partie intégrante de l'expérience fauve, tu vois, dans le sens ouais. où c'est un lieu de vie, en fait. Hein, c'est pas, on croise pas que des gens qui viennent estimer, acheter des objets, finalement.
C'est ça. C'est un lieu de vie, c'est un lieu où on transmet beaucoup. On est vraiment passionné par notre métier et on se considère vraiment comme des passeurs d'histoire entre un objet qui a vécu avec le vendeur ou la vendeuse et qui va être transmis à un acheteur ou une acheteuse. J'ai vraiment une équipe de passionnés qui peuvent vous parler de n'importe quel objet pour vous raconter son histoire. Et c'était notre volonté de rester très accessible, de faire des expositions longues pour avoir le temps de raconter l'histoire des objets et des œuvres qu'on met en vente. Donc c'est pour ça qu'on travaille tous en salle. On n'est pas dans des tours d'ivoire de bureaux séparés. Moi, j'ai mon bureau là-bas. On est vraiment en salle, au milieu des œuvres, au milieu des gens.
Tu parlais de passion, mais en même temps, ce serait bête, dommage de faire ce métier sans passion, finalement.
C'est vrai.
Je pense que c'est un peu obligatoire de lier les deux, quoi.
Ouais, c'est vrai. Après, on n'aime pas tout ce qu'on vend.
Oui,
hein.
C'est vrai. C'est important de le rappeler.
En tout cas, c'est pas ça. On n'est pas forcément touché par tout ce qu'on vend. En plus, même dans l'équipe, on a des affinités plus ou moins grandes avec les différentes spécialités. Donc, voilà.
Alors, je vais te poser une question que j'ai rajoutée l'année dernière,
ouais.
qui concerne forcément la pandémie que nous n'avons pas encore traversée.
Ouais, c'est ça qui n'est pas encore fini.
Et c'est de savoir quel a été l'impact, justement, de la pandémie sur ce métier et sur Fauve Paris, plus précisément.
Alors,
j'imagine que ça a été... difficile quand même.
Eh bien, moi j'ai adoré. Ça peut paraître horrible. Mince. Ça peut paraître très bizarre, mais j'ai adoré le premier confinement. Bon, en gros, on a tous été tétanisés, hein, comme tout le monde. On a donc une autorité de tutelle qui a appelé immédiatement à l'arrêt immédiat des ventes aux enchères. Et bien, moi, je me suis dit, mais c'est impossible. En fait, c'est mon bébé fauve. On ne peut pas arrêter de faire des ventes. En plus, comment on organise ?
Parce que du jour au lendemain, tout s'arrête.
Ah bah c'est ça. En plus, nous, on fait une vente aux enchères par semaine. Donc, le confinement a été annoncé un lundi soir. Nous, on avait une vente prévue pour le samedi, puis pour le samedi d'après, et puis etc. Donc, je me suis dit, c'est hors de question. On va trouver un moyen. On avait déjà notre logiciel qu'on avait développé nous-mêmes qui était en cloud. Donc, nous, on travaille de toute façon en cloud depuis toujours. On a nos propres locaux. Donc, j'ai une équipe formidable. On s'est tous mis en branle-bas de combat. Et on a décidé de faire les ventes, malgré tout, mais tout en visio. Donc, il y avait mon associé Cédric qui était seul en salle. Alors,
ça devient moins fun.
Ouais, c'était beaucoup moins fun. Sachant que nos ventes étaient retransmises en live depuis toujours, c'est-à-dire qu'on utilise une plateforme qui permet aux enchérisseurs et aux enchérisseuses d'enchérir depuis chez eux, en plus des enchères téléphoniques et des enchères en salle. Donc ça, c'était déjà organisé depuis toujours. Donc mon associé était tout seul en salle, il se mettait la caméra pour se filmer. Tiens, on le voit là, il passe. Voilà. Et nous, on était toute l'équipe, chacun chez nous, tous en visio, à faire chacun ce qu'il devait faire, c'est-à-dire les enchères téléphoniques, la retransmission des enchères internet. Moi, je faisais le procès verbal. Donc en fait, on a tout réorganisé pour maintenir la vente aux enchères en live, mais chacun chez soi. Mmh. On a été les seuls à le faire. Donc, forcément, on a beaucoup parlé de nous. On a eu un nombre de connexions qui était le triple d'habitude. Les gens étaient chez eux, on était les seuls.
Ça a été un accélérateur, en fait.
Ça a été un accélérateur. On a eu énormément de presse. On a donc organisé 8 ventes complètement confinées. Enfin, pour le coup, on était strictement respectueux des consignes gouvernementales. Pour continuer à récupérer des œuvres et continuer à faire des catalogues de vente, les transporteurs continuent à fonctionner. Donc, on se faisait quand même livrer des choses. J'avais mon associé qui venait, j'avais deux associés qui alternaient, qui venaient récupérer les œuvres. Le photographe venait une fois par semaine tout seul photographier les œuvres. Et on a pu faire 8 ventes entièrement confinées. Et pour nous, ça a été une visibilité énorme, et aussi un gage d'agilité et d'entrepreneurship quelque part, de dire on ne va pas se laisser abattre, on va trouver des solutions en fait.
Vous avez pris très vite la décision de tout digitaliser en fait. Est-ce que vous avez hésité au départ ou direct, il faut survivre et puis il faut continuer de faire le métier qu'on aime.
Je ne me suis pas posé la question en fait, je me suis juste demandé comment on va faire. Donc en fait, j'étais obnubilée par quelle plateforme de visio on va choisir. C'était mon seul truc. Donc avant d'arriver sur Zoom, qui s'est révélée la plus efficace, voilà, j'ai fait 15 tests de différentes plateformes et c'était ça. C'était, il faut que ça soit fluide. Donc on s'est fait des répétitions générales avec des fausses enchères, des trucs. Bon, j'avoue que le matin de la première vente, c'était
particulier.
Bah, c'était stressant, clairement. Et puis, quelle satisfaction de voir que ça fonctionnait. Ouais, vraiment. Belle visibilité. Et aussi, moi, ça m'a permis, à un moment donné où ça ronronnait un petit peu, de me remettre dans une position d'entrepreneur, de trouver des solutions, d'aller plus loin, de ne pas se laisser abattre. C'était vraiment très stimulant. Bon, après, les deuxièmes et troisièmes confinements, c'est...
On n'en parlera pas. Ouais, J'imagine que vous avez continué à faire du distanciel.
Non, parce que c'était moins strict. Pendant le deuxième confinement, en fait, on n'accueillait pas de public, mais on pouvait quand même mettre l'équipe sur place. Et le troisième confinement, on a eu la chance de ne pas être concerné par la fermeture. On a pu continuer à faire des ventes.
Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Fauve Paris aujourd'hui ?
Sur Fauve Paris aujourd'hui. Ce que je veux.
Ce que
ou
tu
des
veux.
Chiffres comparatifs.
Combien de salariés tu vois,
alors, on est un peu moins d'une dizaine. Mais si je compte l'équipe du café, ça fait une petite dizaine. Parce que je gère aussi la structure qui dirige la structure du coffee shop. Donc, on va dire une petite dizaine. cette année, c'est quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est 5,5, je pense, millions d'euros de produits de vente, c'est-à-dire le produit d'adjudication. Voilà. Et c'est surtout une croissance de 35%, je crois, par rapport à l'année dernière.
Ce qui est, c'est pas ce mal. Qui est très bien.
Ouais. Voilà.
Vu le contexte et ce qu'on a traversé, c'est quand même c'est top. Et c'est quoi un peu les objectifs futurs, les objectifs présents, puisque j'ai vu que vous vous lanciez aussi dans le domaine des NFT.
Ouais.
Est-ce que tu veux me parler de cette partie très intéressante?
Alors, je vais juste faire un petit point objectif tout court. L'objectif l'année prochaine, c'est 7,5 millions de produits de vente. Donc 5 cette année, 7,5 l'année prochaine.
Continuer sur une bonne croissance.
C'est ça, c'est l'objectif. Donc c'est l'objectif chiffré, mais dans la poursuite de notre business model un peu traditionnel, avec une volonté de toujours monter en gamme. En fait, ma stratégie, vraiment, c'est de...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pas d'augmenter le nombre d'œuvres qu'on passe en vente, mais d'augmenter ce qu'on appelle le montant marteau, c'est-à-dire le panier moyen, en gros. C'est de vendre des choses de plus en plus élevées parce que c'est... parce que
montée
ça
en
nous
gamme.
Plaît. Ouais. Ouais, c'est clairement une montée en gamme. Voilà. Avec l'objectif à terme, c'est-à-dire d'ici 2, 3, 4 ans, d'intégrer le top 20, puis le top 10 des maisons de vente aux enchères en France. Voilà.
Ce sont des beaux objectifs.
Voilà. Donc ça, c'est des objectifs dans la lignée de ce qu'on fait. Et maintenant, concernant les NFT, effectivement, moi, je me suis pris de passion pour les NFT depuis avant l'été. Peut-être qu'il faut faire un petit point sur ce que c'est.
On le précisera pendant le podcast.
Ok.
On va pas faire un cours de NFT.
Non.
L'idée, c'est de pas trop rentrer dans la technique, sachant qu'on a déjà fait un épisode sur le sujet.
Ok.
Mais voir ce que vous faites justement avec ça.
Bon.
Ça explose en plus ces derniers mois.
Ouais, juste en deux mots, le NFT, c'est un peu le passe monétaire des œuvres numériques. C'est-à-dire, c'est un moyen de donner de la rareté à des œuvres incorporelles, des œuvres numériques. Alors aujourd'hui en France, on n'a pas le droit de faire des ventes aux enchères de biens incorporels. Parce que le code du commerce qui régit les ventes aux enchères prévoit la vente aux enchères de biens corporels. Et notre autorité de tutelle, dont je parlais tout à l'heure, a interprété ça par « vous n'avez pas le droit de vendre des biens incorporels ». Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire de vente aux enchères de NFT.
Mais ça va venir.
Alors, à l'étranger, ils n'attendent pas. Il y a Christie's Sotheby's, pour ne pas les citer, qui ont déjà fait des très grosses ventes à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros d'œuvres numériques sous forme de NFT. En France, nous n'avons pas le droit. J'ai quelques confrères qui s'y mettent timidement en vendant des supports physiques auxquels ils joignent un NFT. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce que ça révolutionne en termes de création numérique. C'est vraiment fascinant. Il y a une histoire de l'art qui est en train de se créer sous nos yeux. C'est vraiment incroyable. Donc moi, je suis très impliquée aujourd'hui sur la scène crypto parisienne et française. Et je me bats auprès du Conseil des ventes, notamment, pour nous laisser le droit de faire des ventes de biens incorporels. Vente de NFT. Le temps de la régulation n'est pas le temps du monde de crypto. Donc, ils m'ont fait comprendre que ça n'allait pas être autorisé de sitôt. Donc, j'ai
organisé. On est
lent. On est très lent. On est très lent. J'ai organisé la semaine dernière un gros meet-up chez Fauve Paris qui s'appelait NFT, not the French time, point d'interrogation. Le marché de l'art français va-t-il manquer la révolution NFT? Et j'avais invité des artistes, des collectionneurs, une avocate, le président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, un podcasteur, John Carr, pour ne pas le citer, de renom, enfin très, très, c'est un peu monsieur NFT en France, pour qu'on réfléchisse à, déjà, si on a encore besoin des maisons de vente aux enchères et des galeries, enfin des acteurs traditionnels du marché de l'art pour vendre des NFT, sachant que tout ce monde-là, finalement, s'est organisé par lui-même. Donc, a-t-on besoin d'acteurs traditionnels dans un monde décentralisé ? Point d'interrogation. Et aussi, la France peut-elle se permettre d'être à la traîne comme ça ? On se veut quand même la Startup Nation.
Et on est fait, super en retard sur tout ce qui concerne la blockchain.
On est très en retard.
Parce que c'est mal compris, je pense, aussi.
Parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est supra-régulé de tous bords et que peut-être en termes de mentalité, on attend que ce soit autorisé avant de se lancer. Voilà. Et puis les initiatives, moi je parle que du marché de l'art parce que je connais que ça, il y en a quelques-unes, mais c'est très timide, que ce soit en vente aux enchères, en galerie, même les artistes, il y a des super artistes, mais c'est encore une poignée en fait. Donc voilà, on a réfléchi à ça pendant 2 heures sur toutes ces questions-là. Il y a eu un monde fou, les gens rentraient par la fenêtre.
C'était pas diffusé ça ?
C'était diffusé sur Twitter Live, okay. Et là demain on sort une vidéo qui raconte
le
un
replay,
petit peu tout ça.
Un peu. Ouais. Super, on le mettra en description. Ouais.
En tout cas, qui montre l'ambiance. Et il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Il y avait, ça débordait d'énergie et de ce sentiment d'être au cœur du réacteur, au cœur de ce qui est en train de se cristalliser là. Et depuis, il se passe beaucoup de choses sur les NFT à Paris. Et moi, je suis persuadée que c'est l'avenir. Donc j'ai engagé Fauve Paris. Là, ça y est, j'ai annoncé ça la semaine dernière. À partir de janvier, on va accepter les crypto-monnaies.
Waouh.
Y compris pour le paiement des œuvres d'art traditionnel.
Génial.
Donc Bitcoin, Ether et Binance, la monnaie de Binance.
C'est une grande annonce. Hein.
Ouais, c'est une grande annonce.
Dans le milieu des ventes aux enchères, ils doivent...
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que...
Voilà, mais je pense que c'est très important, en tout cas pour montrer qu'on s'insère vraiment, qu'on y croit, que c'est pas une bulle et que c'est l'avenir. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais organiser au premier trimestre 2022 une vente aux enchères de NFT sans support physique, de manière malicieuse. Il y a un petit contournement à faire pour quand même respecter l'avis du Conseil des ventes, mais pour dire on s'inscrit, on y croit et on le fait. Voilà, parce que je suis entrepreneur. Au bout d'un moment, il faut un petit peu casser les chaînes pour avancer quand même. Voilà, faut pas avoir froid aux yeux, il faut prendre des risques et on y va.
Donc Fauve Paris va devenir une place incontournable des NFT et de tout ce qui tourne autour de l'art dans les NFT, justement.
Moi, j'y crois et je veux, en fait, de la même manière... Pourquoi je fais ça, en fait ? Au-delà du fait que ça me passionne, parce que de la même manière qu'on a créé Fauve Paris pour un petit peu désacraliser la vente aux enchères auprès des non-initiés, auprès des gens que ça pouvait intéresser mais à qui ça fait un petit peu peur, et ben de la même manière, j'ai envie de désacraliser tout ce crypto-art, tout ce monde des NFT qui est un peu agressif comme ça quand on ne comprend pas. Alors qu'en fait, j'ai plein de collectionneurs et collectionneuses d'art traditionnel, d'art contemporain, qui sentent qu'il se passe un truc, mais qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas par où passer, etc. Et qui, si ils peuvent acheter en vente aux enchères avec la validation, l'expérience, le côté très quand même institutionnalisé, sérieux qu'ils connaissent, en leur simplifiant aussi le process, parce que moi, mon but, c'est de faire des ventes aux enchères physiques de NFT, eh bien, je suis persuadée que ça peut ouvrir tout cet univers-là à ces collectionneurs d'art contemporain. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire créer des ponts entre le monde crypto et le monde physique. Et de l'autre côté, c'est utile à toute cette nouvelle histoire de l'art qui est en train de se faire, d'avoir une espèce de validation par le marché traditionnel. Moi, mon but, c'est à terme de pouvoir vendre des NFT au milieu de mobilier de Charlotte Perriand, de vases de Picasso, de tableaux, de photographies. C'est-à-dire, pour moi, c'est un médium comme un autre, la création numérique qui peut être vendue par le NFT. Et c'est un peu comme les premières ventes aux enchères de photographie, où c'était un petit peu bizarre. On disait, mais c'est pas de l'art, la photographie. Bah là, on en est au même point, en fait. Donc moi, je suis persuadée que c'est le médium du futur, un parmi d'autres. Hein. Ça va pas, tout le reste ne va
bien
pas
sûr
disparaître.
Mais ça ne va pas remplacer les œuvres d'art traditionnelles.
Pas du tout, mais ça va juste s'ajouter. Et qu'il faut aussi que, voilà, aujourd'hui, en tant que marché de l'art, acteur du marché de l'art, on puisse écrire cette histoire du crypto-art dans le temps long. Voilà, donc je pense qu'on a un vrai rôle à jouer des deux côtés, en fait. pour évangéliser auprès des collectionneurs et collectionneuses plus traditionnels et pour inscrire dans le temps long les artistes NFT et les collectionneurs NFT d'aujourd'hui.
C'est intéressant, tu disais tout à l'heure, je suis entrepreneur, donc j'ai envie, mais c'est plus qu'être entrepreneur, je pense que t'es aussi, t'as un intérêt fort pour l'innovation,
ouais,
puisque tu te remets en question, tu remets en question ce business continuellement, ouais, le fait de déjà tout digitaliser l'année dernière pour comment dire, vivre ce premier confinement.
Alors, tout digitaliser, mais en gardant l'expérience de la vente.
Exactement, voilà, c'est ça.
Parce que moi, j'ai refusé de faire ce que beaucoup de confrères ont fait, c'est-à-dire des ventes uniquement en ligne, un peu en mode eBay ou Katawiki, où en fait la vente se passe sur 5-10 jours. Non, moi, je voulais vraiment garder l'expérience de la vente aux enchères, le show, le spectacle, l'instant T, l'excitation de la vente. Et c'est aussi ce que je veux faire avec la vente de NFT, c'est la faire en live, quoi. Qu'il se passe quelque chose, parce que c'est une expérience d'achat unique d'acheter en vente aux enchères.
Ok, bah, écoute, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois chez Fauve. On va passer à la partie un peu bilan de cette aventure. Deux questions qui s'opposent un peu. Le premier, c'est important d'en parler aussi dans le podcast. C'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
L'année où on ne s'est pas payé et où on n'avait plus de chômage. Parce qu'au début, quand on est entrepreneur et qu'on monte sa boîte, et ben, y a quand même cet investisseur incroyable qui s'appelle Pôle emploi.
Hein, premier banquier en France, des entrepreneurs.
Non, mais en France, c'est incroyable d'avoir 2 ans pour monter sa boîte. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Et je pense que c'est un très bon investissement parce qu'au final, moi, j'ai créé 10 emplois. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis ensuite, on s'est payé. Et puis, on a fait des erreurs. Et puis, il a fallu pivoter très fortement. Et dans l'intervalle, il y a une année où on n'a pas pu se payer. Et c'était évidemment très difficile. Et en même temps, c'est vraiment là qu'on apprend. C'est vraiment là qu'on apprend.
Parce que ça te booste encore plus à vouloir faire un maximum de choses,
en
j'imagine.
En fait, à plein d'endroits. Déjà parce que pour moi, il était hors de question d'échouer, que de fermer ma boîte. Enfin, c'était pas possible. Il fallait tout faire pour la sauver. Et puis, de ne pas se payer, ça permet aussi pour la boîte de vraiment veiller à toutes les dépenses, à peser vraiment chaque centime, peser la rentabilité finalement de chaque centime dépensé. Et en fait, on remet en question plein de choses. Et c'est là qu'on apprend. Et puis, à titre personnel, c'est quand on s'approche de la falaise qu'on se rend compte d'énormément de choses et qu'on n'oublie pas. Et aujourd'hui, je pense que je peux garder la tête sur les épaules, me remettre en question en permanence, parce que j'ai pris cette claque-là, en fait, parce que c'est une grosse claque. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est important de se prendre des claques.
C'est clair.
Voilà, c'est difficile à dire, mais c'est important et c'est là qu'on apprend. Ouais,
ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et la deuxième, parce que les moments difficiles, c'est bien d'en parler, mais on a bien aussi parlé des moments de fierté. C'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ?
De mon équipe, je crois, de l'ambiance qu'il y a chez Fauve. C'est un peu une grande famille. Enfin, vraiment, je suis très heureuse que les gens soient heureux de venir travailler. Moi-même, je suis hyper contente le mardi matin de commencer la semaine et je me dis que c'est une chance fabuleuse d'avoir construit ça et que j'arrive à emmener des gens avec moi qui croient en ce projet-là. Ouais, c'est mon équipe, je crois.
C'est une réponse qui revient souvent dans le podcast, parce que c'est vrai que sans équipe, on ne peut rien faire, hein. surtout sur cette typologie d'aventure.
Tellement.
Donc oui, c'est sûr. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est fait de rencontres, évidemment.
Ouais.
Et la première question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie ?
Mon père, qui m'a donné une force de caractère importante. Et ma mère, qui m'a donné une force de résilience non moins importante.
Pour affronter toutes les étapes.
Je crois que c'est les deux plus grandes rencontres de ma vie.
C'est important.
Bon, il y en a beaucoup d'autres. Hein, ouais. Beaucoup d'autres.
Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui ? Alors, ça peut être des gens que tu connais, mais ça peut aussi être des gens que tu ne connais pas ou que tu aimerais rencontrer et qui t'inspirent.
Il y a plein de gens qui m'inspirent, mais j'ai envie de dire que c'est plus des... Par exemple, les sportifs de haut niveau m'inspirent infiniment. Alors, j'ai personne à citer en particulier. J'ai moi-même été sportive de haut niveau quand j'étais adolescente.
Sur quel sport ?
Je fais du patinage artistique pendant 13 ans au niveau national.
Super.
Ensuite, j'ai couru des marathons. Enfin, il y a quelque chose dans le sport de haut niveau qui me fascine, cette force d'abnégation, de...
Qui est très reliée à l'entrepreneuriat.
Ouais. Je vais citer...
Un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau, en fait.
Ouais. Il y a une forme d'ascétisme, de ténacité. Je vais citer pour ça quand même l'ancien directeur de Sciences Po, Richard Descoings, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui avait prononcé un discours qui m'a marqué pour ma remise de diplôme, où il nous avait dit « Je veux que vous reteniez trois choses dans la vie. » Enfin, la sortie de ce... Je veux que vous reteniez trois choses. Humilité, ténacité, pugnacité. Et je crois que ces trois mots-là m'accompagne au quotidien depuis. Et ça se retrouve dans le sport de haut niveau, dans l'entrepreneuriat. Et... Humilité, ténacité, pugnacité. Je pense que c'est la règle d'or. Ouais.
Est-ce que potentiellement, tu pourrais me raconter une anecdote de vente, par exemple, qui t'a marqué particulièrement ou une anecdote drôle, potentiellement ?
Une anecdote drôle, voilà.
Drôle ou marquante, hein, c'est...
Si, je vais en raconter une. C'est notre première vente en gants blancs. Une vente en gants blancs, ça veut dire qu'on vend tous les lots. Et il se trouve que c'était pas n'importe quelle vente pour moi, parce que c'est un ami de longue date, très cher, qui devait vider en fait une demeure qu'il avait héritée et qui nous avait confié la vente de ces objets. Et on avait explosé l'estimation et surtout, on avait tout vendu. Et je me souviens que quelques lots avant la fin, on savait qu'on avait tout vendu parce qu'on avait déjà les ordres. J'étais à côté de Cédric qui a demandé qu'on lui apporte des gants blancs. Quelqu'un a apporté des gants blancs et les a enfilés. Et il a tapé le dernier lot de la vente en gants blancs. Et voilà, j'ai versé ma petite larme.
Génial. Okay.
C'était très émouvant.
Une bonne anecdote. Oui. Et on va conclure cette partie avec, pareil, une question que je pose sur chaque épisode. C'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer ?
Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut agir surtout. Il faut y aller, il faut être conscient que ça va être dur, mais dur à un point qu'on ne peut pas s'imaginer. Il faut être prêt à se prendre des claques, et c'est bon signe le moment où on se prend des claques, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il faut surtout agir, pas attendre. Voilà, il faut le faire en fait.
Peu importe le domaine, toujours être dans l'action, quoi.
Peu importe le domaine, il faut avancer. Il ne faut pas attendre, voilà, c'est le conseil que je donnerais.
Et c'est cette action aussi qui permet de se réinventer, finalement.
Ouais, alors, pour se réinventer, ouais, il faut douter tout le temps. Bon, après, ça, c'est une de mes névroses, hein, mais je doute tout le temps et je pense que c'est ce qui me permet de pouvoir prendre du recul parfois et d'avoir la tête assez froide pour dire « Ok, là, je me suis trompée et il faut que je revienne sur mes convictions les plus profondes parce qu'elles ne se sont pas révélées justes. » Et donc peut-être qu'il faut changer, pivoter, le fameux, et c'est pas grave, au contraire. Mais ouais, foncer, mais savoir se remettre en question. C'est un équilibre un peu peut-être délicat, mais en tout cas, pour se lancer, faut pas se remettre en question au moment où on se lance, faut se remettre en question après, dans toute l'aventure entrepreneuriale. Mais il faut savoir qu'il faudra le faire à un moment donné, ouais.
Je te rassure, le doute, c'est une des caractéristiques que la majorité des entrepreneurs que j'ai reçus ont. Et je pense que c'est même normal de douter. Si je rencontre quelqu'un demain qui me dit je ne doute jamais, ouais. Je pense que je m'inquiète pour lui. Okay. Donc, ce n'est pas une névrose. c'est normal.
Okay, c'est un caractère. Comment ?
Et du coup, on va passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides, mais toujours avec un temps de réflexion quand même. Le premier, est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Alors ça, j'y avais déjà réfléchi parce que j'écoute tes podcasts.
Mince. Non, c'est très bien.
En tout cas, j'ai plein de livres, je lis beaucoup de littérature contemporaine. Mais d'un point de vue plus entrepreneurial, j'ai été très marquée par la biographie de Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, qui raconte justement son expérience et comment il en est arrivé là où il en est arrivé, en gardant la tête froide, en... Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il raconte comment d'abord il a eu la mauvaise idée mal réalisée, ensuite il a eu la bonne idée mal réalisée, puis une mauvaise idée bien réalisée, ou le contraire, puis enfin la bonne idée bien réalisée, et qu'en fait il ne faut pas s'inquiéter, tout ça c'est un process normal, et que, qu'on passe tous par toutes ces étapes, en fait personne n'arrive de tout en bas à tout en haut, et qu'il faut en parallèle savoir voilà, garder la tête froide, rester ancré. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Mmh. Entrepreneuriat, c'est ça. C'est pas
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, en tout cas. C'est ça. Oui. Mais c'est normal. C'est... Voilà. Mmh. Donc, ça m'a redonné confiance en plein doute. Ouais, mmh. Voilà. Donc, parfois, il n'est jamais très loin sur ma table de nuit et tout. Okay. Je sais qu'il est là.
Je note la recommandation. Mmh. La deuxième, du coup, c'est est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Eh bien, deux films récents, je crois. Le premier, c'est Annette, qui a été vraiment de Léo Carax.
Ah, grand réalisateur.
Ouais, et qui pour moi est un chef-d'œuvre total. Et ça m'a vachement touchée de me dire qu'on arrive à emporter un spectateur, une spectatrice à ce niveau-là de maîtrise à la fois narrative, esthétique, musicale. Enfin, c'était tellement complet. Je me suis dit, oh, mais c'est un chef-d'œuvre. Et bon. Je suis admirative des gens qui arrivent à faire des chefs-d'œuvre. Et le deuxième qui est sorti à peu près au même moment, c'est Titane. La réalisatrice à mon âge. Et je me suis dit, waouh, d'arriver à faire ça à mon âge. C'est quel courage et puis quelle audace. Et puis c'est un éloge de la monstruosité, de la différence. Et c'est très puissant. Ça m'a beaucoup touchée.
Ok, super. C'est quoi ta musique du moment ?
Ouf, ma musique du moment. Alors,
on juge moi, pas, hein.
je suis très éclectique, mais en fait, j'écoute FIP tout le temps.
FIP, c'est vraiment tout, c'est hyper cool.
Et bon, mes amis ouais. Le savent, quand j'arrive chez eux, ils mettent FIP et tout. Ouais.
C'est très varié quoi, en termes de musique. C'est ouais, pas c'est toujours ça. La même musique. C'est...
Quand j'étais petite, je voulais devenir FIPette. Ah. Quand je serais quoi. Et sinon, j'écoute. Beaucoup de chansons françaises et de trip-hop. Okay. Voilà.
Très bien. Alors, la prochaine question que je vais doubler, je pense. Alors, la première, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle société. Mais du coup, je vais rajouter si tu pouvais racheter n'importe quel objet d'art.
Alors, si je pouvais... Je vais commencer par la deuxième. Si je pouvais acheter...
Sans limite financière.
Je m'offrirais une toile de Soulages et une toile de Morandi. Okay. Voilà. C'est bien de. On parle de millions d'euros hein, quand même, mais c'est vraiment des artistes, deux artistes qui me touchent infiniment. Et puis peut-être une œuvre de Nicolas De Staël aussi. Ouais, moi j'aurais envie
encore
de
la place dans le salon.
On peut changer l'accrochage. Et si je devais racheter n'importe quelle société.
Une boîte de NFT.
Ouais, je rachèterais...
Pour avoir la techno, oui.
Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, je rachèterais Super Rare. Mmh. Ouais, okay. La grosse plateforme de curation de NFT. Ouais, ça.
C'est pas mal. L'avant-dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
Peut-être sur... Le pivot que j'ai dû faire dans ma boîte, parce que j'ai vraiment dû changer de stratégie de manière presque à 180 degrés. Et ouais, on aurait pu parler de ça, de comment tu as dû pivoter.
Je peux te la poser maintenant. tu me fais une belle passe décisive. Est-ce que tu peux me parler de ce pivot, justement ?
Eh bien, alors je vais essayer de la faire rapidement. Hein, mais notre postulat, quand on a créé Faux, c'était donc d'amener les non-initiés à acheter en vente aux enchères. Parce qu'on était parti du principe qu'il n'y avait que 14% des gens qui achetaient en vente aux enchères. Et donc ça nous laissait une part de marché énorme à prendre. Et donc, on avait tout axé pour les acheteurs et les acheteuses. Donc, on faisait ces supports de vente là, qu'on appelait des magalogues, entre magazines et catalogues, où on faisait des articles, où on mettait en scène tous les objets qu'on vendait. On faisait des interviews, enfin vraiment des supports très importants pour faire de la pédagogie, pour arriver à faire comprendre pourquoi c'était formidable d'acheter en vente aux enchères, ce qu'il fallait acheter, comment, etc. Eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné. Le coût d'acquisition d'un non-initié était monstrueux. On n'arrivait pas à le fidéliser. Et clairement, ce qui nous faisait vivre, c'était les collectionneurs et les collectionneuses traditionnelles. Ce qui a amené l'année où on ne s'est pas payé.
Et donc là, on est sur quelle période
on est de
2013 à...
Donc première vente en 2014, on est en 2017, fin 2016-2017. C'est en 2017 qu'on ne se paye pas. Et là, on s'est dit, OK, en fait, notre postulat n'était pas le bon. Donc il faut changer. Et donc, on a pivoté complètement pour s'orienter vendeur et vendeuse. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, en fait, on ne va pas réussir en trouvant plus d'acheteurs, on va réussir en trouvant des œuvres plus belles, en fait. Puisque de toute façon, les acheteurs, ce n'est pas un problème. C'est un peu comme un agent immobilier, en fait. Son problème, ce n'est pas de vendre le F3 à Paris. Son problème, c'est de le trouver. Eh bien, c'était un peu pareil. Donc, on a complètement pivoté notre offre de service sur les vendeurs avec... C'est là qu'on s'est mis à faire une vente aux enchères par semaine pour se dire, parce qu'on s'est dit, OK, pourquoi les gens vendent aux enchères? En général, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, que ce soit pour racheter d'autres œuvres ou pour, parce qu'ils déménagent, ou, enfin, plein de raisons. Donc, ils ont besoin d'argent, donc vite. Donc, on va faire une vente aux enchères par semaine, comme ça, ils vont pouvoir être... que les œuvres passent en vente vite. On les paye très vite derrière. Donc, en fait, on a une agilité qui est incomparable sur le marché. On expose nos œuvres une semaine, donc ça leur donne une visibilité incroyable. Et on a changé de baseline, donc c'est plus libérer les enchères, c'est Auctions Now, avec le double postulat de Auctions Now, donc c'est maintenant, c'est-à-dire qu'on vend tout de suite, vous nous apportez votre œuvre, elle passe en 10 jours.
Ouais, avec c'est super rapide.
C'est très rapide, avec une qualité professionnelle, parce qu'on fait des catalogues pour toutes nos ventes, tout est illustré, tout est décrit, on fait des super photos, on a un studio photo sur place, on expose longtemps, on est visible sur plein de plateformes, enfin vraiment, on a toute une gamme de services très poussée. Et Auctions Now, c'était aussi pour dire, voilà, on est dans notre temps, on utilise les moyens de communication qui sont les nôtres, on est très présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on se lance dans les NFT. Donc voilà, gros pivot en fait, où on était très axé acheteur-acheteuse et on s'est très axé vendeur-vendeuse. Alors, sans négliger évidemment les personnes qui nous achètent, mais quelque part, les personnes qui achètent vont acheter d'abord des œuvres avant d'acheter dans une maison de vente. Voilà.
Attends, on a bien fait d'aborder ce sujet quand même, hein. C'est un pivot pas négligeable.
Ouais,
et puis ça fait partie de l'aventure de Fauve, justement, ouais. D'avoir totalement changé de stratégie.
C'est ça. Et ça, c'est un vrai tournant entrepreneurial, pas évident, hein, parce qu'il a fallu revenir sur nos convictions qui nous ont fait monter notre boîte.
Oui, justement, je pense que c'est important aussi de pouvoir apporter du changement dans son business et pas rester focalisé sur... sur cette stratégie et se dire non mais ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est la faute des gens, et ce qui est souvent pas le cas.
D'où le doute et la remise en question, les claques qu'il faut se prendre pour se réveiller, et c'est là qu'on apprend encore une fois.
C'est sûr. Et on passe du coup à la dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode?
J'aurais envie de dire d'abord Jessica Troisfontaine, qui est la fondatrice de Septem, qui est donc la marque de la combinaison que je porte. Oh. Je suis très admirative de ce qu'elle a réussi à faire. Elle était avocate, elle a tout quitté pour se lancer dans la mode, et elle a une manière d'aborder le sujet très fine, où elle a créé un podcast. Alors, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la marque, par le podcast où elle-même invite notamment des femmes qui parlent de leur prise de pouvoir. Donc elle crée des fringues pour que les femmes puissent prendre le pouvoir. Effectivement, on se sent bien. En fait, moi, quand j'ai des échéances ou des moments où je sais que je dois être bien, ben, j'enfile une combinaison Septem. C'est vrai.
Trop bien.
Et elle a une manière, voilà, de et de communiquer et de concevoir et de, en plus c'est très c'est que sur précommande, donc c'est très raisonné d'un point de vue écologique, etc. Donc je sais pas, je suis très admirative de son parcours. Elle a une croissance à mon avis phénoménale et c'est vraiment mérité. Et la deuxième, eh ben, c'est aussi une créatrice de mode, c'est Morgane Cesalori qui a créé Cézanne, qui là est une marque où je suis également extrêmement admirative. Donc ça m'intéresserait beaucoup de connaître les dessous en fait. Est-ce que cette femme-là doute ? Vraiment, ça m'intéresse de le savoir.
Eh ben, écoute, je les contacterai. Voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est des parcours de vie qui m'intéressent. Et encore plus dans le domaine de la mode, qui est effectivement un milieu aussi particulièrement intéressant, je pense, et dans lequel on parle peu, finalement, et dans lequel c'est compliqué aussi de bouger des montagnes, finalement.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, pour le coup. Ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc voilà, ça m'intéresserait de les écouter.
Et bah super, merci pour les recommandations.
Avec plaisir.
Je te remercie pour cet échange, Lucie et Léonore.
Et ben, merci à toi, François. Cool.
J'ai beaucoup apprécié ce moment. J'espère que toi qui nous regardes, ça t'a plu aussi. Et que tu as appris beaucoup de choses sur le milieu de la vente aux enchères. Et puis, si vous êtes sur Paris, il ne faut pas hésiter à venir à Fauve Paris ou au Café Fauve.
Exactement.
Et puis moi, ce que je te propose, c'est potentiellement de se retrouver dans 2 ans,
ouais.
Quand vous allez devenir un acteur important des NFT.
Absolument.
En France, et on fera un podcast que sur les NFT.
Ouais, avec grand plaisir.
Voilà. Donc, l'invitation est lancée.
Ouais.
Et puis voilà, à bientôt sur Serial Entrepreneur.
Merci beaucoup, François.
Salut. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.